Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale consacrée aux migrations. Depuis l'an 2000, les migrations à travers notre planète ont augmenté de près de 50%. On compte aujourd'hui quelque 258 millions de migrants, dont une vingtaine de millions se retrouvent en situation irrégulière et suscitent une forte polémique. L'ONU vient de publier le rapport « Rendre les migrations bénéfiques pour tous », rapport qui cherche à contrer les idées reçues et propose des politiques pour mieux gérer les flux migratoires en vue de l'adoption d'un pacte mondial sur les migrations cette année. Pour en faire un large tour d'horizon, nous recevons la représentante spéciale sur les migrations internationales, Louise Arbour.
Il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, souvent dans les propos même des journalistes, entre les migrants et les réfugiés. Alors, il y a plusieurs définitions. Ça dépend, différentes agences utilisent différentes définitions à leur fin. Mais de façon générale, dans ce rapport, entre autres, on utilise la définition qui définit un migrant comme une personne qui vit, et la plupart du temps travaille, dans un pays autre que son pays de naissance pendant au moins un an. Alors, c'est une façon, en fait, d'exclure les touristes. Et là, on parle de migrants internationaux. On ne parle pas de gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Dans le moment, présentement, il y a à peu près 258 millions de migrants dans le monde, dont, pour vous donner une échelle, à peu près 25 millions de réfugiés ou de demandeurs d'asile, des gens qui vont ultimement avoir la protection de la Convention sur les réfugiés. Donc, on parle de ce que les gens appellent parfois des migrants économiques, un terme que j'hésite à employer parce que c'est devenu franchement un peu péjoratif, comme si c'était des gens qui venaient voler les emplois des autres dans d'autres pays. Alors que les profils, évidemment, de cette vaste population migratoire, les profils sont très, très différents les uns des autres.
Quels sont les défis, justement, qui sont associés à la migration et aux migrants aujourd'hui?
Il y en a plusieurs. Le premier, je pense, en fait, peut-être le plus important dans le moment, c'est de repousser un discours qui est basé sur toute une mythologie associée à la migration qui n'a rien à faire avec une réalité qui, heureusement pour moi, à mon avis, est beaucoup plus positive, en fait, que cette perception dans l'opinion publique. Alors ça, c'est un grand défi parce qu'évidemment, les décideurs politiques sont très sensibles à leur opinion publique. Et donc, je pense que les efforts qu'on a faits au cours de l'année 2017 et qui vont devoir être faits dans l'année en cours, entre autres, ça va être de s'adresser à cette espèce d'ignorance là, au niveau de ce qu'est la mobilité humaine. Alors, de façon générale, il y a peut-être trois grandes questions. La première, c'est de constater que sur les 258 millions de migrants, la plupart d'entre eux se sont déplacés et se sont installés dans un pays d'accueil de façon tout à fait légale. Mais parmi tous ceux-là, ils font quand même l'objet très souvent de maltraitance, de discrimination au niveau de l'emploi, qualité d'emploi, non-reconnaissance des qualifications reliées au travail, qualifications professionnelles, mal payées, sous-payées. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la migration qui est aujourd'hui quand même légale et régulière, mais pour améliorer les conditions, combattre le racisme, la xénophobie, et ainsi de suite. Ensuite, il y a deux espèces de pathologies dans les dossiers migratoires. Un, c'est la migration irrégulière. Alors, des gens qui soit entrent dans un pays de façon non autorisée ou encore, ce qui est plus souvent le cas, qui arrivent dans un pays, par exemple, avec un visa de tourisme, mais qui ne quittent pas ou qui violent les termes ou les conditions de leur accès et qui, finalement, souvent constituent des populations pendant très longtemps qui sont dans des situations d'irrégularité et qui sont, évidemment, encore plus vulnérables et sujets des abus au niveau de l'emploi, ainsi de suite. Et la troisième grande problématique, c'est celle qu'on connaît peut-être le mieux ces années-ci. Ce sont les grands mouvements de population où on a une mixité de réfugiés et de migrants qui fuient toutes sortes de conditions souvent très déplorables. Le manque d'opportunités, la dégradation de l'environnement, la dégradation du climat politique dans leur pays et qui cherchent à s'installer ailleurs pour gagner leur vie.
C'est ceux qui prennent les routes les plus périlleuses.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on essaie de préconiser une espèce de renversement de la situation. Parce que vous savez, il y a des facteurs qui les poussent à partir, mais il y a aussi des facteurs qui les attirent. Entre autres, le fait que dans la réalité, ces gens-là, s'ils réussissent à s'installer quelque part, trouvent souvent, en fait, du travail, mais dans ce qu'on appelle l'économie informelle ou les marchés noirs. Et moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est persuader les États que plutôt que de tolérer et donc indirectement d'encourager ces mouvements migratoires très périlleux qui font que les terres des pays d'accueil, les gouvernements n'ont pas le contrôle sur les gens qui sont chez eux, on doit ouvrir plus de voies légales d'accès, une variété d'opportunités.
Le rapport propose des solutions face à ces défis et à ces flux de population illégaux, et notamment pour que les États fassent en sorte que les migrants s'épanouissent sur le plan économique et social. Ça veut dire quoi concrètement?
Encore une fois, commençons avec la réalité. C'est 258 millions de migrants dans le monde aujourd'hui, dont 48% sont des femmes, qui, les femmes et les migrants en général, mais les femmes en particulier, qui ont un taux d'emploi supérieur à la moyenne des femmes dans le monde. 67% des femmes qui sont des travailleurs, des travailleuses en migration, sont employées, alors que la moyenne dans le monde est d'environ 51% pour les femmes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'on améliore les conditions qui vont leur permettre de continuer à être engagés dans la vie économique de façon encore plus productive. Par exemple, ces 258 millions de migrants, en moyenne, dépensent dans leur pays d'accueil 85 % de leurs revenus. Dépensent leur salaire en logement, en nourriture, en impôts, en taxes de toutes sortes. Et il y a un 15 % qui renvoie en moyenne dans leur pays d'origine. Et encore là, les femmes envoient normalement une proportion encore plus élevée de leurs revenus à leur famille ou dans leur village ou dans leur pays d'origine. Ce portefeuille qu'on appelle des transferts d'argent, en 2017, valait 600 milliards de dollars, ce qui est trois fois le niveau de l'aide officielle que les gouvernements des pays riches transfèrent aux pays en voie de développement. Donc, tout ce qu'on peut faire pour favoriser l'épanouissement économique des travailleurs migrants, ça a un impact sur les pays en voie de développement, sur les travailleurs eux-mêmes et sur leurs terres d'accueil. Parce qu'encore une fois, contrairement à la perception populaire, les étrangers qui viennent travailler dans un pays ne sont pas là pour voler les emplois de qui que ce soit. Ils sont typiquement employés en très grand nombre dans des secteurs où les employeurs se voient dans l'impossibilité de recruter.
Localement.
Oui, localement. Donc, ça favorise pour les travailleurs nationaux l'opportunité d'avoir des meilleurs emplois. Et eux, très souvent, commencent au bas de l'échelle et à des salaires qui ne sont pas compétitifs pour des travailleurs nationaux.
Est-ce qu'il y a des mesures aussi que les États d'origine peuvent prendre, en fait, pour améliorer les conditions qui changeraient peut-être les flux?
Oui, bien d'abord, dans les objectifs du développement durable, on a exprimé clairement qu'une meilleure gestion de la migration, donc faciliter une migration sûre, régulière, va contribuer à réduire les inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays.
Comment?
Bien, justement, la migration, par exemple, avec les transferts d'argent, c'est un moteur de développement important. D'abord, c'est des devises étrangères qui entrent dans un pays. Vous savez, dans plusieurs pays en voie de développement, ces transferts d'argent qui leur viennent de leurs nationaux qui sont partis travailler à l'étranger, dans certains pays, ça équivaut à plus de 20 % de leur produit intérieur brut. Mais il y a aussi l'acquisition à l'étranger ou l'amélioration des connaissances, des techniques de travail. Et il y a beaucoup de migration qui est circulaire. Les gens rentrent chez eux. Et donc, c'est aussi une façon, non seulement sur le plan culturel, social, mais au niveau de l'éducation, du perfectionnement des qualifications professionnelles, c'est vraiment un autre moteur d'aide, en fait, aux pays en voie de développement. Ce qui est absolument clair, c'est que l'objectif ultime, c'est que la migration se fasse par choix, non pas par nécessité. Mais vous savez, pour avoir le choix, il y a deux aspects de la question. Il faut réduire la nécessité. Il faut que les conditions de travail dans les pays en voie de développement s'améliorent. Mais il faut augmenter les options aussi. Parce que quand on dit une personne devrait avoir le choix, bien, c'est une chose d'avoir le choix de partir, mais il faut avoir le choix d'aller quelque part.
Un autre volet aussi qui est associé aux migrations, c'est la sécurité. Il y a une certaine appréhension, notamment dans les pays d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour démentir cette notion que, justement, la migration pose un danger?
Je pense que la première chose qu'on doit faire, et dans le dossier de la migration, ça c'est un impératif sur toutes les questions, c'est d'avoir des données fiables et de ne pas développer des politiques qui sont basées sur toutes sortes de présomptions ou de stéréotypes. Alors, les questions sécuritaires, ce sont des questions importantes et les États auraient tort de ne pas s'y intéresser. D'un autre côté, exagérer l'aspect sécuritaire de la migration, ça risque de donner lieu, en fait, à une espèce de cercle vicieux où les politiques migratoires projettent de la part des gouvernements une image de suspicion envers les étrangers qui alimente justement des fois des préjugés déjà existants. Et là, on est dans un engrenage où les populations sont moins réceptives envers les étrangers en général, les migrants en particulier qui s'installent chez eux, et des politiques dures, répressives, dans une certaine mesure, valident cette impression. Et donc, ce qui est important dans tous les domaines, c'est d'avoir des données fiables et de s'assurer qu'il n'y a pas une espèce d'hystérie d'opinion publique qui, basée sur un ou deux cas particuliers, exagère justement la criminalité qui peut être associée aux activités de certains étrangers, alors que très souvent, cette criminalité, qu'on ne peut pas nier, qui existe, mais elle est souvent minuscule comparée, par exemple, aux dangers que les concitoyens se posent les uns aux autres.
Est-ce que le fait d'avoir certains États membres qui n'adhéreraient pas à ce processus de négociation vers un pacte global sur des migrations sûres peut freiner ou vraiment impacter négativement le processus et le pacte, l'importance de ce pacte?
Écoutez, c'est sûr que dans un processus onusien, là, qui est ultimement multilatéral, avoir toutes les parties autour de la table, c'est la prémisse de base, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment réussir aussi à avoir un pacte qui est vraiment global, qui ne reflète pas qu'une réalité eurocentrique, qui va vraiment reconnaître, par exemple, le fait que la migration est largement sous-régionale. Les gens se déplacent d'abord et avant tout à l'intérieur de leur sous-région, de leur région. Tout ça, ça doit être reflété, en fait, dans une communauté le plus large possible. Vous savez que les Nations unies ont annoncé leur intention de ne pas participer. Les États-Unis, pardon. Ce qui, à mon avis, est très regrettable pour toutes sortes de raisons, c'est que c'est un pays, d'abord, qui a une histoire tellement importante au niveau de la bonne gestion de la migration, qui s'est construite sur l'immigration. Mais finalement, on s'en va vers un pacte qui ne sera pas contraignant là, sur le plan juridique. Ce n'est pas la négociation d'un traité. Et donc, je pense que ce qui va bien fonctionner, ce sont des négociations qui vont donner beaucoup d'options pour favoriser une meilleure coopération internationale dans l'intérêt de tout le monde, que tous seront convaincus qu'ils y trouvent leur intérêt.
Dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner les messages clés positifs ancrés dans la réalité que l'on doit découvrir et promouvoir de la migration? La migration, c'est quoi?
La migration, c'est d'abord, c'est un facteur, moi je dirais presque inhérent à l'humanité. Comme habitant de cette planète au 21e siècle, on est plutôt sédentaire. Mais historiquement et à l'heure actuelle, il y a une proportion d'entre nous qui sommes en fait des nomades. Et cette proportion, elle a toujours été relativement stable, quoiqu'elle est en croissance. Il y a 10 ans, il y avait environ 2,8% de la population mondiale qui était une population migratoire. Aujourd'hui, on est à 3,4%. Et on a toutes les raisons de croire que, soit de façon relative ou absolue, le nombre de personnes qui traversent les frontières, là, pas juste pour le tourisme, va continuer d'augmenter. D'abord, il va y avoir plus de monde sur la planète. Déjà, on a des projections de déséquilibre démographique qui font que, par exemple, au niveau des besoins sur les marchés du travail, il va y avoir des déséquilibres qui vont devoir être gérés par la migration. Donc, le message positif, moi, je dirais, c'est d'abord, c'est inévitable. Et jusqu'à maintenant, toutes les données qu'on peut ramasser nous démontrent que ça a été historiquement et encore aujourd'hui énormément profitable pour les migrants eux-mêmes, pour leur pays d'origine et pour leur terre d'accueil. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde de favoriser, pas d'essayer de réduire la migration, ce qui va être carrément impossible, mais de l'accompagner, de la gérer de façon à maximiser ses bénéfices et à minimiser ses aspects négatifs et les risques que ça peut comporter.
Et c'est avec Louise Arbour que nous refermons cette édition d'Escale pour des migrations bénéfiques. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info, présenté cette semaine par Christina Silvero. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.